Bonjour, je suis Clémence Cambourian, j'ai 24 ans et je travaille aujourd'hui en tant que directrice des opérations chez Astreos.
Alors, quel a été votre parcours d'étudiante?
Alors, mon parcours étudiante, j'ai commencé à faire une pré-scientifique après mon bac. Donc, j'ai été en Touraine pour faire une prépa maths physique qu'on appelait à l'époque MPS-IMP. Je crois que ça a changé depuis. Et après le concours des grandes écoles, j'ai intégré l'ESTACA, qui est une école spécialisée dans les transports. Dans cette école que j'ai faite dans les Yvelines, j'ai pris la spécialité espace, la filière espace, dans laquelle j'ai plutôt eu une formation mécanique sur les aspects lanceurs et satellites. Une fois ce stage, cette formation établie, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages. Donc j'en ai fait quelques-uns dans des boîtes de conseil. Et notamment un stage très important pour moi qui a été le stage de fin d'études chez Ariane Group, où j'étais dans le bureau des futurs lanceurs. Et donc j'ai travaillé sur des prédimensionnements à la fois pour Ariane 6 et pour les fusées qui viendraient après Ariane 6.
Quel a été votre parcours professionnel?
Donc, à l'issue de ce stage de fin d'études, alors c'est tombé en même temps que le Covid, donc c'était pas forcément un contexte idéal pour trouver un emploi. Donc je suis allée quand même me réfugier dans l'aéronautique. J'ai trouvé un travail en bureau d'études en tant qu'ingénieur calcul. Et en gros, je faisais des simulations de la CAO, donc de l'assistance par ordinateur, pour faire de l'aménagement cabine sur des aéronefs. Et juste après, du coup, cet emploi dans l'aéronautique, j'ai eu l'opportunité de contribuer à la création d'Astreos. Et donc ça, c'était début 2021.
Alors, qu'est-ce que représente Astreos en fait?
Donc Astreos, alors pour ceux qui connaissent, c'est la filiale de Latitude qui s'appelait il y a encore peu de temps Venture Orbital Systems. Donc Latitude, c'est une boîte qui a été créée en 2019 et ils fabriquent un micro-lanceur qui a pour but d'être lancé pour la première fois fin 2024. Donc nous sommes la filiale et nous proposons des services autour du lancement pour n'importe quel type d'opérateur. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on accompagne n'importe quel type de projet depuis leur idée de conception d'un satellite jusqu'à leur mise en orbite. Donc ce service, il s'adresse à vraiment tout type de clients. On peut avoir des gens qui veulent faire de l'observation de la Terre, on a des gens qui font de la connectivité, donc plutôt tout ce qui est Internet of Things, le Wi-Fi, éventuellement la localisation. On a des gens aussi qui s'intéressent à la biologie, le médical pour les applications spatiales, mais également terrestres. Et on a également des acteurs militaires qui peuvent être intéressés par les CubeSats. Et donc l'idée, c'est qu'on aide toutes ces personnes à récupérer de la donnée spatiale. Alors parfois, c'est simplement en leur trouvant un lancement parce qu'ils ont déjà toute la chaîne pour faire ça chez eux en interne. Et parfois, c'est vraiment pour les aider depuis l'idée et la conception du projet. Donc en passant par la fabrication de la charge utile, du satellite, on les accompagne sur toutes les démarches légales, administratives, jusqu'à la mise en orbite.
Très bien. Alors, avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiante ou professionnelle, même s'il est court, qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière liée au spatial?
Alors en effet, j'en ai une que je vais pouvoir mentionner. Alors déjà, pour replacer le contexte, depuis mon adolescence, je participe aux rencontres ciel et espace parce que je suis passionnée par l'astrophysique. Et donc ces rencontres ciel et espace, pour ceux qui ne connaissent pas, elles ont lieu tous les 2 ans à Paris, à la Cité des Sciences. Et c'est vraiment l'opportunité d'y rencontrer des grands noms, un peu comme Hubert Reeves et André Braik, quand il y était à l'époque, voilà. Et donc ces gens-là font des conférences, et à l'issue des conférences, on peut aller au stand pour acheter un bouquin, avoir une dédicace. Et donc j'ai eu l'occasion là-bas de rencontrer Aurélien Barreau, qui est donc astrophysicien lui-même spécialisé dans les trous noirs. Et à l'époque, je voulais vraiment faire un métier très proche du sien. Et il a été vraiment très accueillant. On a même finalement eu une amitié pendant plusieurs mois à la suite de ça. Sur laquelle il m'a vraiment parlé de son travail, il me montrait un peu quel était son quotidien. Et grâce à ça, en fait, je me suis rendu compte que j'adorais vraiment l'astrophysique. Je suis même allée jusqu'à faire un semestre d'études à l'étranger pendant mon cursus à l'ESTACA pour faire 6 mois d'astrophysique à Liège, en Belgique. Mais finalement, c'est quand même l'ingénierie spatiale qui a repris le dessus. Alors à l'époque, je ne connaissais pas ce métier d'ingénierie spatiale. On parlait vraiment plus d'astrophysique. Et pour plein de raisons, que ce soit la longueur des études, la reconnaissance du travail, la facilité peut-être aussi d'avoir un emploi, je me suis dirigée vers l'ingénierie aérospatiale.
En effet, parce que le domaine de l'astrophysique, c'est l'équivalent de 10 à 15% des doctorants, une fois le doctorat acquis, qui ont un poste véritablement, et les autres vont faire un post-doc en attendant de
Voilà.
trouver un emploi plus sûr.
C'est vrai que ça peut être compliqué. Et aussi en discutant avec ces chercheurs, j'avais vu que bah, la plupart du temps, en fait, on fait de la paperasse, de la recherche de financement, et bah, voilà, on doit mettre sa passion de côté de temps en temps. Donc ce n'est pas un métier qui est facile et je suis vraiment reconnaissante par contre qu'il y en ait qui aillent vers cette voie. Parce qu'il nous faut des gens qui fassent de la recherche.
C'est clair. Alors, l'apparition des nouveaux lanceurs nous insère inévitablement dans un nouveau marché. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, alors déjà sur le monde des lanceurs, je dirais qu'il y a eu une énorme évolution sur les dernières années et ça va être encore pire, je dirais, aux alentours de 2024-2025. Donc peut-être, je dirais qu'on peut distinguer deux catégories, deux types de lanceurs. Donc il y a les lanceurs qu'on va appeler lourds ou moyens, qui sont vraiment des mastodontes. Là, je parle par exemple d'Ariane 6, de Vega C, qui est un petit peu plus petit, mais qui est quand même assez balèze. On peut parler de Falcon 9 aussi, SpaceX côté américain. Et donc ce sont des lanceurs qui ont une capacité d'emport vraiment impressionnante. On parle de plusieurs tonnes. Et donc ces lanceurs-là, en fait, ils proposent des services en rideshare. Pour la plupart des gens qui ont des petits satellites, en fait, c'est l'équivalent de faire du covoiturage, un peu comme le BlaBlaCar pour nous. Et de l'autre côté du rideshare, on a des gens qui se mettent à développer des plus petits lanceurs, qu'on appelle des micro-lanceurs, donc en général inférieurs à une tonne. Et donc ces gens-là, bah, par exemple Latitude, hein, la fusée Zephyr, elle fait une centaine de kilos. Le but, c'est de proposer des lancements dédiés. Donc des gens qui sont des satellites qui sont tout petits, en fait, pourraient avoir une place principale dans le lanceur, choisir leur orbite. Et c'est vraiment peut-être la comparaison entre le train et le taxi, finalement. Et ce qui est intéressant avec ces lanceurs, alors la plupart d'entre eux vont avoir leur premier vol d'essai d'ici 1 ou 2 ans. Il y en a déjà qui l'ont eu et bon, bah, c'est pas toujours soldé par un succès dès le premier vol, mais c'est pas grave, il faut continuer à essayer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va sûrement aller vers un marché assez disruptif côté lanceur, notamment avec SpaceX qui commence à proposer un Starship. Donc là, on est vraiment sur un autre type de lanceur. Et on peut même imaginer que dans quelques années, on ne sait pas encore ce qui va nous tomber dessus, mais il y aura des nouveaux types de lanceurs qui vont remettre à plat complètement notre façon d'appréhender le marché aujourd'hui.
Et là, le nombre de lancements, est-ce que vous vous mettez sur une prédiction, une organisation annuelle sur un nombre de lancements avec Zephyr, par exemple?
Oui, alors je n'ai pas les données exactes, mais ce que
Il n'y
je
a pas
sais,
qu'un
c'est...
lancement, en fait. C'est ça
Non, non,
le
non. En
gros.
fait, tout à fait. Il y a le premier lancement qui est pour fin 2024. Et après, l'idée, c'est de proposer jusqu'à une cinquantaine de lancements quand on sera vraiment rodé et qu'il y aura suffisamment de stock et d'industrialisation. Parce qu'on prévoit qu'il y a énormément en fait, de satellites qui vont être créés, qui auront besoin d'un lancement et d'un lancement plutôt dédié. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une complémentarité finalement entre ce qui est proposé par des rideshare et les missions transporteurs de SpaceX notamment. Donc on envoie tout le monde à une même orbite et puis après, ils se débrouillent. Et on aura des gens qui auront des applications spécifiques qui devront être emmenés à d'autres altitudes, d'autres inclinaisons. Et là, les micro-lanceurs auront vraiment toute leur place. Donc on prévoit une grosse augmentation du nombre de lancements par an en effet sur ces petits lanceurs.
D'accord. Alors, selon vous, quels sont les avantages de participer au développement du New Space en France et plus généralement dans les pays européens en tenant compte, bien entendu, de l'existence des grands groupes et de leur histoire comme Ariane Group, Ariane Espace, Safran, le CNES, Thales, l'ESA et Airbus pour n'en citer que quelques-uns?
Okay. Alors déjà, peut-être pour commencer, je trouve qu'on a une chance extraordinaire d'avoir en France un écosystème qui est très divers et très complet. Typiquement, alors que ce soit des startups, des PME ou des plus grands groupes, on a des entreprises de composants, donc des gens vraiment ouais, au niveau composants, on a des fabricants de plateformes. On a des gens qui font du courtage en lancement en service. On a des lanceurs, plus qu'un, donc ça c'est super. On a aussi des opérateurs de satellites. Donc finalement, si on le souhaitait, on pourrait avoir toute cette chaîne de valeur, totalement indépendante et française. Et ces entreprises, alors la plupart du temps, ce sont des startups. Elles sont complémentaires finalement avec les grands groupes. Donc ces grands groupes, ils sont déjà historiquement présents. Il n'est pas question pour les startups d'arriver, de dire c'est fini, c'était une autre ère. Non, en fait, l'idée, c'est qu'on va être complémentaire parce qu'on ne va pas répondre du tout aux mêmes besoins, on ne va pas s'adresser aux mêmes clients. Typiquement, si je reprends mon exemple tout à l'heure sur les lanceurs, des gens qui vont s'adresser à Ariane Espace pour avoir un lancement sur Vega C ou sur Ariane 6, ce n'est pas du tout les mêmes catégories de personnes qui vont s'adresser pour des micro-lanceurs. Parce qu'encore une fois, il y a cette histoire de besoins dédiés ou de besoins plus standards sur lesquels éventuellement Ariane 6 ou Vega C sera capable de mettre des petites charges utiles, sachant que le gros de leur métier, c'est plutôt d'être intéressé par les grosses charges utiles que nous ne pourrons pas envoyer. Il y a énormément de satellites d'observation. Côté ESA, il y a aussi beaucoup de missions où les satellites ils font la taille d'une voiture, d'un bus. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas du tout envisageable de les envoyer avec des micro-lanceurs.
Alors, en tant que jeune Française à la tête d'Astreos, consciente de l'intérêt du développement d'une start-up qui vit quotidiennement les difficultés liées au développement économique de la start-up, mais aussi de la concurrence très rude présente dans le milieu européen. Comparé aux États-Unis, quel regard expérimenté portez-vous sur plusieurs éléments, dont le premier, c'est la création d'emplois?
Ok. Alors, sur la création d'emplois, donc je ne peux pas vraiment comparer comme si j'avais vécu longtemps de l'autre côté de l'Atlantique. Ce que je peux dire, c'est qu'on a énormément d'opportunités de création d'emplois, que ce soit aux États-Unis, en France ou même plus largement en Europe. Et notamment depuis le Covid, en fait, il y a eu énormément de startups qui ont été créées, ce qui veut dire diversification de l'emploi, nouvelles créations, nouveaux types d'emplois aussi qu'on peut proposer aux gens. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, le but principal de tout le monde dans la promo, c'était il faut intégrer Ariane Group ou il faut intégrer le CNES. Sinon, on est foutu, il n'y a rien pour nous. Je caricature, mais c'était un peu l'idée qui était derrière. Et aujourd'hui, en fait, pour ces étudiants, donc, j'ai eu l'opportunité d'aller leur donner cours il n'y a pas longtemps, et je leur disais, mais regardez, vous avez une soixantaine aujourd'hui d'acteurs en France qui sont prêts à vous accueillir. Et donc, l'intérêt aussi de cette création d'emploi, c'est qu'on peut démarrer avec un emploi en tant que, je ne sais pas, ingénieur en bureau d'études, et puis on peut finir à gérer une équipe où on peut avoir un changement, devenir expert dans une filière technique. Et finalement, on observe qu'il y a quand même pas mal de roulements, c'est-à-dire que les gens, en général, ils restent en poste peut-être 2-3 ans, et puis après, alors soit ils restent dans la même entreprise, mais ils évoluent sur leur poste, ce qui est beaucoup plus rapide que si on compare historiquement, d'ailleurs, avec d'autres groupes où on fait le même métier pendant longtemps. Ou alors, ils décident de changer d'entreprise au bout de quelques années. Donc, c'est beaucoup plus flexible, je dirais, comme approche aujourd'hui.
Et l'accès, deuxièmement, l'accès à l'emploi, mais aussi la présence concrète des femmes dans les startups, ainsi que la diversité ethnique, hommes et femmes, parce que c'est aussi des réalités qui sont présentes au sein de notre société. Je parle au sein de notre société, en France plus particulièrement.
Ouais. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une question facile. Alors, par rapport à la position des femmes, dans ma promo, pour reprendre cet exemple, on était 4 filles sur 50 personnes. Donc, ça ne faisait pas beaucoup en termes de ratio. Mais aujourd'hui, ou en tout cas, alors je ne sais pas si c'est juste un constat de ma part ou si c'est le cas partout, je côtoie quand même pas mal de femmes dans le spatial au quotidien. Alors certes, moins, il y a plus d'hommes, surtout sur des niveaux de management ou de direction, c'est vrai. Mais je trouve qu'on va dans le bon sens, c'est-à-dire que alors déjà dans les écoles, en fait, il y a déjà plus de femmes qui s'engagent ou qui arrivent dans les promos. Ce qui veut dire que plus tard, si elle continue dans le spatial, on aura plus d'employés dans ce cas-là. Et sur des postes aussi en start-up, nous, typiquement, je sais qu'il y a, alors, et puis heureusement d'ailleurs, il n'y a aucune différence de fait sur le recrutement, sur l'éthique aussi, parce qu'on parlait des femmes, mais on peut parler aussi des profils internationaux. Moi, par exemple, chez Astreos, on est 7 aujourd'hui. Sur mes 7 personnes, j'en ai 2 qui sont indiennes et une qui est britannique. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre bureau, il est complètement international et tous les échanges, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, se font en anglais. Donc, je n'ai pas trop ce problème-là dans mon milieu proche, mais en effet, ce n'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises. Il y a encore sûrement des efforts à faire.
Très bien. Alors, Troisièmement, concernant l'accès au financement et les levées de fonds, en fait. Ce qui est
Ouais.
le nerf de la guerre, si je puis dire.
Complètement. Alors ça, je vais pouvoir faire une comparaison pour le coup avec les États-Unis. Déjà, le constat, c'est que le spatial français, il est en retard sur le spatial américain. Mais bon, après, est-ce qu'on peut vraiment comparer ça? Ils ont commencé plus tôt, ils ont plus de moyens, ils sont plus nombreux. Cependant, je tiens quand même à préciser que le gouvernement français a mis en place pas mal d'initiatives, que ce soit des appels à projets, le plan France Relance, France 2030, on en parle beaucoup, qui permet d'accélérer nos compétences spatiales et de développer des nouveaux projets, que ce soit à l'échelle française ou même à l'échelle européenne. Donc là-dessus, enfin, je trouve que le gouvernement a su mettre l'accent là où il fallait. Alors, il faut maintenir les efforts, hein, ce n'est pas forcément assez, mais c'est déjà un très bon point. Et la grosse différence qu'il va y avoir avec les États-Unis, c'est sur la prise de risque. Parce que les investisseurs américains, ils ont cette faculté à pouvoir débloquer des fonds assez rapidement et des fonds assez importants pour aider des entreprises, même à leur tout début. Récemment, typiquement, on a pu observer qu'il y a eu plusieurs échecs de lancement aux États-Unis. C'est des entreprises qui avaient été longuement backées par la NASA, par le gouvernement. Il y a eu plusieurs contrats qui leur ont permis justement d'aller jusqu'à ce premier lancement. Et pourtant, ces entreprises, même s'il y a des échecs, elles existent toujours. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas parce qu'il y a un premier échec que ça ne va pas fonctionner. Donc il y a une appétence au risque qui est beaucoup plus importante aux États-Unis. Alors qu'en France ou en Europe, si on voulait à niveau égal faire la même chose, il faudrait avancer beaucoup plus de démonstrations technologiques pour débloquer le même niveau de privilège.
Alors maintenant, concernant les assurances, puisque dans chaque start-up, on a la deuxième chose qui vient après la création de la start-up, c'est la problématique de l'assurance. Comment vous gérez ça et quel regard portez-vous
Alors, en ce qui concerne Astreos, il n'y a pas trop de problèmes par rapport à l'assurance parce qu'on va être considéré comme un bureau d'études finalement ou un peu comme une boîte de conseil. Quand il s'agit d'assurer par contre un lancement, c'est là où ça devient intéressant parce que déjà sur les assureurs, tout le monde ne fait pas de l'assurance spatiale. Donc ça va être des clauses particulières étant donné les montants qui sont en jeu. Il y a même des entreprises, des assurances qui se réassurent derrière pour être plusieurs à assurer le même risque. Et si on reste sur cette comparaison avec les États-Unis, je pense qu'en effet, c'est pareil. Les assureurs, ils ont une appétence au risque qui est plus importante aux États-Unis. Donc c'est sûrement plus facile d'obtenir de l'assurance pour des premiers lancements aux États-Unis qu'en France ou en Europe. Et par contre, de façon plus générale, un commentaire sur l'assurance, sur la partie lancement. En ce moment, l'assurance, c'est pas terrible, dans le sens où il y a eu beaucoup de premiers lancements qui ont été soldés par un échec. Et typiquement, en fait, quand on est opérateur français, quand on a un satellite, on est obligé d'assurer son satellite en responsabilité civile, donc pour les dégâts que notre satellite pourrait causer à d'autres satellites. Et cette assurance, il y a un prix qui est fixe, mais c'est un prix qui peut être modifié, je dirais, en fonction du contexte politique, en fonction du contexte de chaque pays et des lanceurs. Et il y a une autre assurance en dommages. Donc celle-ci, c'est par rapport à la valeur de son satellite, si on veut assurer la valeur de son satellite. Celle-ci, elle est clairement dépendante du lanceur que vous allez utiliser. Et donc plus le lanceur, il est jeune ou moins il a d'expérience en vol, plus vous allez payer cher. Et en ce moment, les assureurs, comme ils voient qu'il y a beaucoup d'échecs, ils ont clairement augmenté leurs prix et les primes d'assurance que les clients vont payer. Donc ça, c'est problématique parce que ça ajoute énormément au coût du projet.
En fait, c'est un facteur de réussite, de
Oui.
développement, quoi.
Oui,
Parce que
non, mais complètement.
c'est une chose vitale pour le développement d'une start-up, quoi.
C'est essentiel. Et puis de toute façon, c'est cadré par la loi, c'est obligatoire, mais oui, c'est normalement c'est gage aussi de qualité.
Alors, pour vous, quel est le profil idéal d'une ou d'un dirigeant d'une start-up?
Je pense pas qu'il y ait de profil idéal déjà, puisqu'on est vraiment, enfin, quand je regarde autour de moi, on est tous très très différents. Il y a notamment des dirigeants qui viennent d'une formation ingénieur, il y en a d'autres qui viennent d'une formation commerciale. On n'a pas du tout le même background. Par contre, ce qu'il faut, Et ça, je pense, c'est vraiment indispensable pour n'importe qui voudrait se lancer dans une startup. Il faut être polyvalent, il faut être multitâche, il ne faut pas hésiter à mettre les mains dedans, hein, parce qu'il va y avoir plein de choses à faire. Il va y avoir de la compta, il va y avoir des finances, il va y avoir le côté opérationnel. Il faut savoir un peu tout gérer, ou en tout cas apprendre sur le tas à s'auto-former. Et il ne faut pas avoir peur de prendre des initiatives aussi. Même si ces initiatives, bah, peut-être qu'au début, elles ne seront pas forcément concluantes. Mais voilà, faut vraiment pas hésiter à avoir de l'ambition et ne rien lâcher.
Très bien. Alors, aujourd'hui, quels sont les challenges d'Astreos?
Je dirais qu'aujourd'hui, on a 3 challenges chez Astreos, en tout cas pour cette année. Le premier serait d'emmener nos clients vers leur premier lancement. Le deuxième, ce serait de continuer bien sûr à se développer, alors que ce soit d'un point de vue financier, apporter des contrats, avoir des subventions éventuellement et se développer en ressources humaines, donc augmenter notre capacité, avoir plus d'ingénieurs, plus de commerciaux dans le bureau. Et puis globalement, le troisième gros objectif, c'est quand même d'être reconnu comme une entreprise incontournable du spatial français. Ça, c'est notre objectif court-moyen terme.
Très bien. Que conseillez-vous aux jeunes filles intéressées par les sciences en général et le spatial, l'aéronautique et l'électronique en particulier? Pourquoi l'électronique et l'aéronautique? Parce que c'est incontestablement lié au domaine du spatial. L'électronique, on en a dans tous les satellites et on a des connaissances qui sont en lien incontestablement avec l'aéronautique.
Ok. Alors là-dessus, je pense que je ne vais pas trop faire de différence du domaine, que ce soit dans l'auto, dans l'aéro, dans le spatial, que ce soit dans la médecine. Et d'ailleurs, qu'on soit homme ou femme là-dessus, je pense que vraiment, la chose clé, c'est de ne pas hésiter à poser des questions. Il faut être curieux, il faut se rendre sur des forums, il faut aller à la rencontre des professionnels. Il y a plein d'événements, plein d'associations, plein de choses qui sont mises en place autour de nous, un peu partout en France, pour justement rencontrer ces nouveaux métiers. Et voilà, il faut maintenir son idée, son cap, il faut aller poser des questions, se renseigner. C'est le meilleur moyen d'arriver à ses objectifs.
Alors pour finir, les associations sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société et pourquoi ?
Ok, oui, je pense que c'est une nécessité. Enfin, en tout cas, c'est vraiment bienvenu, c'est très utile de vulgariser les sciences. Que ce soit pour les gens curieux, justement, comme pour faire le lien avec la question précédente, ou pour les gens plus expérimentés, il faut mettre à disposition de la société, de tous les milieux, des activités pour pouvoir partager sa passion et se renseigner. Voilà. L'accès à la culture, c'est quelque chose de très, très important.